Bonsoir à tous, je vous propose à présent un nouveau rendez-vous sur Radio Shalom, les Chroniques de la Paix, qui vous seront présentées à partir d'aujourd'hui par David Chemla, bonsoir.
Bonsoir.
Et Ouzi Meyerson, bonsoir Ouzi.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Vous êtes tous les deux des représentants de G-Call, de la Paix maintenant, et vous allez animer tous les 15 jours sur notre antenne des Chroniques de pour la Paix.
C'est un plaisir.
Oui, c'est un plaisir de lutter pour la paix en ce moment, j'en suis pas sûr.
C'est pas facile, mais on continue. Mamshichim, comme on dit.
Ouais.
Ouais. Bah, c'est-à-dire que c'est un engagement que nous avons pris déjà il y a de nombreuses années. Première réunion, ça, pour vos auditeurs, ça monte loin, de la paix maintenant en France, c'était à la Sorbonne en 1980, avec la présence de Vladimir Yankelevitch, Elisabeth Badinter, le rabbin Eisenberg, ou Henri Boulavko et d'autres noms, je ne vais pas tous les citer. Et depuis, donc plus de 40 ans maintenant, cet engagement pour la paix, nous l'avons poursuivi parce que nous pensons que c'est l'objectif fondamental pour Israël, maintenant que c'est un État fort, et à la fois sur le plan économique et militaire, c'est d'arriver à avoir un accord de paix avec ses voisins immédiats. C'est dans l'intérêt du pays d'abord, et de sa population.
Vous arrivez à vous faire entendre encore ? C'est une voix qui porte, Ouzi Meyerson ?
Oui, ça porte quand on parle de la liberté et de la démocratie en Israël. Parce qu'il y a quand même pas mal de problèmes depuis quelques années. Pas mal de gens sont sensibles à ça, un État juif et démocratique. Et ils se rendent compte que pour être démocratique, eh ben, il faut peut-être tenir compte des demandes de justice de nos cousins et voisins.
Parce que c'est paradoxal, à la fois, vous êtes, je dis vous, votre famille de pensée est arrivée au pouvoir à Jérusalem, vous avez des gens du Meretz qui sont ministres aujourd'hui, comme le ministre de la Santé par exemple, mais on n'a pas l'impression que excusez-moi de vous dire ça, on n'a pas l'impression que vous êtes arrivé au pouvoir.
Vous avez raison, c'est pas un gouvernement de gauche, hein, c'est un gouvernement de droite qui est au pouvoir, un gouvernement de coalition qui, dans sa constitution un peu improbable, va de la droite Yamina, du parti de Bennett, jusqu'au parti islamique Ram, donc avec des partis représentant des partis centristes, Lapid évidemment, de Yesh Atid, parti travailliste, Meretz, etc., comme vous le dites. Mais la majorité, disons, le poids fort de ce gouvernement, c'est plutôt le côté droit de sa constitution, qui donne le ton sur les problèmes de politique extérieure. Malgré tout, il y a un changement de ton. Un changement de ton qui est très important, je crois, ressenti comme ça par la population israélienne, après 12 ans de pouvoir pratiquement continu de Netanyahou et du Likoud, qui était majoritaire jusqu'à il y a 6 mois. C'est un changement de ton, de tonalité d'abord. C'est un pouvoir beaucoup moins personnel. On a oublié, mais Netanyahou était à la télévision pratiquement un soir sur deux pour faire des conférences. Bon, il y avait la crise du Covid, évidemment, mais c'était un pouvoir très concentré entre ses mains. Il cumulait plusieurs portefeuilles. On n'avait jamais eu ça, notamment celui du ministre de l'Affaires étrangères, en plus du Premier ministre, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a l'impression d'avoir un gouvernement, bon, certes un peu pléthorique, contenu des accords de la coalition, mais c'est un gouvernement qui travaille sur différents sujets. Il y a des sujets, notamment sociaux, sociétaux, sur lesquels il y a des avancées importantes qui ont eu lieu depuis déjà 6 mois. Mais sur le plan politique, à vis-à-vis des Palestiniens, certes, il n'y a pas eu d'avancée.
Oui, mais regardez par exemple le ministre de la Défense, qui est quand même quelqu'un qui devrait connaître son sujet, c'est Benny Gantz, il est lui-même l'un des leaders de cette coalition au pouvoir, a rencontré la semaine dernière le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Il a été sujet des critiques les plus dures, peut-être au sein de son propre gouvernement.
Oui, c'est normal, puisque comme disait David Chemla, il y a des gens qui sont très à droite. Il y a des gens nationalistes religieux, et pour eux, c'est impossible de commencer ne serait-ce que le début d'une négociation sur la Judée et la Samarie. Donc pour eux, Hamas ou autorité palestinienne, kif-kif bourricot, ils ne font pas la différence.
Oui, mais...
Mais donc... quand Benny Gantz rencontre Mahmoud Abbas, c'est un crime de lèse-majesté, il ne supporte pas.
Non mais je vais même peut-être être encore plus dur, excusez-moi, hein, avec vous, mais je pense que ce...
On est là pour ça.
Oui, c'est vrai. Bah, votre discours, il est peut-être encore plus difficile à passer en France.
Alors, d'abord en Israël, on peut penser que Gantz a eu l'accord de Bennett pour le rencontrer, Mahmoud Abbas, c'était à peu près évident. Et il reste sur cette ligne que partage aussi Bennett, à savoir faire des avancées sur le plan économique et sécuritaire avec les Palestiniens, c'est dans l'intérêt des Israéliens et des Palestiniens. La situation de l'autorité palestinienne est critique hein, sur le plan financier, elle risque de s'écrouler. Et Abbas a fait passer un message très fort aux Israéliens, et dire voilà, il risque d'avoir une troisième intifada s'il n'y a pas d'avancée sur ce plan-là, on ne s'en rend pas compte. Et en plus, le Hamas gagne des points, je dirais, parce que l'autorité palestinienne n'est pas populaire du tout en Cisjordanie, en Judée-Samarie. Résultat, le Hamas est à l'origine d'abord de beaucoup d'attentats ou tentatives d'attentats ces dernières semaines. Et donc, il fallait renforcer l'autorité palestinienne. Et ce qu'a donné Gantz, avec probablement l'accord de Bennett, d'abord, c'est donner une avance sur les taxes TVA que les Israéliens collecte pour les Palestiniens de 100 millions de shekels, c'est quand même important. Il a donné plusieurs autorisations de passage pour des VIP, des hommes d'affaires palestiniens qui vont rentrer en Israël sans problème, c'est plusieurs centaines d'entre eux. Il a donné, disons, régularisé le statut de beaucoup de Palestiniens qui vivent ou qui sont mariés avec des Israéliennes arabes et qui n'ont pas de droit de séjour et pour lesquels la situation a été régularisée. Enfin, il a fait un somme d'avancer sur ces plans-là. Maintenant, sur plan politique, il n'y a pas aujourd'hui de négociation, de reprise de négociation, mais le fait même que...
Mais ça servirait encore à quelque chose de faire des négociations ?
Écoutez, de toute façon, un jour, il n'y a pas d'autre alternative. S'il n'y a pas de négociation...
Il n'y a pas d'autre alternative, excusez-moi de vous dire. Il n'y a pas vote politique. Ce n'est pas l'alternative qu'il n'y a pas. L'alternative, on connaît ça, c'est ce qu'il y a aujourd'hui.
C'est ce qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire une gestion du conflit avec une explosion tous les quelques mois ou toutes les quelques années. Donc, on ne peut pas penser que c'est pas parce que la paix, enfin les négociations quand elles ont eu lieu, elles n'en a pas eu depuis plus de 15 ans. Hein. Dernière négociation importante, c'était entre Ehud Olmert et Mahmoud Abbas à la fin du mandat d'Olmert. Donc vous voyez, ça monte à loin.
Uzich Meyerson, vous me regardez, vous êtes assis en face de moi et vous me dites, il y aura un État palestinien. Et moi, je vous dis que d'après moi, même, je sais pas, Emmanuel Macron et Barack Obama, ils croient pas qu'il y aura un État palestinien. Vous me répondez quoi ?
Écoutez, avoir un État palestinien, c'est un objectif. C'est-à-dire, c'est un objectif pour les Palestiniens, et c'est pas un objectif pour les Israéliens, mais si en Israël, on veut la paix, si on veut garder le caractère juif et démocratique d'Israël, je vois pas comment on pourrait faire autrement, parce qu'on ne veut pas d'État fédéral en Israël. Personne ne le veut. Les Palestiniens ne veulent pas d'un État binational. Les Juifs en général, Israéliens, ils ne veulent pas d'État binational. Donc qu'est-ce qui reste ? Quelle solution il reste ? Il reste soit on continue cette politique et dans ces conditions, il y a une partie de la population palestinienne qui vit sous l'autorité militaire, hein, c'est l'autorité militaire, et c'est deux poids, deux mesures, c'est une autre loi. Donc le caractère démocratique, il est vacillant. On peut reprocher à Israël de ne pas appliquer les règles démocratiques humaines dans les shtarim, dans les territoires. Maintenant, comme le voulait l'ancien président de l'État d'Israël, on annexe les territoires de Judée-Samarie, comme on annexait le Golan, si on l'annexe, il faudra s'occuper de cette population, ce sera notre responsabilité. Donc vous allez faire quoi ? Vous allez leur donner la citoyenneté israélienne, comme les Arabes israéliens. Donc je vous laisse réfléchir, en termes de démographie, ce que ça signifie.
Si on annexe, normalement c'est un homme, une voix.
Voilà, un homme, une voix, un chat. Donc ça posera encore des gros problèmes. Donc il faut penser à ça, et il faut se régler ce problème, il faut reprendre les discussions, il faut prendre en compte absolument... la dimension sécuritaire de l'État d'Israël, même si aujourd'hui la dimension sécuritaire elle est plus du tout la même qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Aujourd'hui il y a 9 millions d'Israéliens, il y a 30 ans il y en avait 3 millions et demi. Aujourd'hui il y a la paix avec l'Égypte, il y a la paix avec la Jordanie, il y a la paix avec les Émirats, il y a la paix avec le Bahreïn, etc., etc. Il y a la paix avec le Maroc. Donc la situation n'est plus du tout la même. C'est peut-être le moment d'entrevoir les choses un peu différemment.
Eh bien, vous allez pouvoir en parler tous les 15 jours. Donc, le rendez-vous est pris le mardi après-midi, après le flash de 17h, pour les chroniques de la paix. Je suis personnellement très heureux de vous recevoir.
C'est très gentil.
Pour ces nouvelles chroniques. D'abord déjà parce que c'est un beau nom, les chroniques pour la paix. Donc ça ne peut être que enrichissant de vous entendre. Je sais évidemment que Radio Shalom est la radio. Je dis je sais parce que c'est pas je pense. Je sais que Radio Shalom est la radio de tout le monde, que tout le monde vient donner son point de vue et que vous allez pouvoir à partir de maintenant donner le vôtre tous les 15 jours, je le répète, à 17h15 et ça me fait très plaisir de vous dire Baruch Haba.
Toda Haba, Merci beaucoup. Toda Haba.